cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 8 mai 1993.
Des deux grandes analyses et même revenir tout le temps là-dessus. Et cette année-ci, c'était la grande réflexion auquel on revient tout le temps. Mais c'est pas le moi psychologique. Hein. C'est pour ça que je dis l'analogue de l'expérimentation. C'est quand même quelque chose de très spécial. Et quand on ne peut saisir toute la profondeur qu'ayant déjà l'analyse de la philosophie première, découverte de la substance, qui subsiste en acte. Donc, c'est, j'allais dire, l'expérience métaphysique de la subsistance. Je crois qu'on peut dire ça. L'expérience métaphysique de la subsistance.
Égocentrisme métaphysique,
que simplement la réalité. Je suis dans une situation telle que je peux saisir cette exister. Vous voyez, je crois que c'est le Dasein de Heidegger, ça. Heidegger a saisi qu'il y avait là quelque chose de très particulier. Alors, il l'a saisi encore trop en dépendance de Descartes. Puisque, justement, il a séparé l'être de l'étant. Donc, ceci est, il l'a rejeté pour saisir le « je suis » Dasein. Alors, il ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est la conséquence de Descartes. Là où Heidegger n'a pas été assez loin. Et pratiquement n'allant pas plus loin, il n'a pas pu saisir le réalisme de l'être. C'est pour ça que cette expérimentation métaphysique est si importante dans notre petit laboratoire. Chacun, nous avons notre laboratoire, c'est ça l'avantage, c'est qu'on est seul là. Personne ne nous ennuie, métaphysiquement parlant. Je suis seul à pouvoir dire je suis. Alors, saisissez ce qu'il y a au plan métaphysique, donc au plan de l'être, ce qu'il y a de tout à fait particulier, de saisir ce comment substantiel, premier, actuel, séparé des autres. À partir de là, il faut bien comprendre qu'il y a là quelque chose d'original que la scolastique a laissé complètement tomber. Ça, il faut le reconnaître. Et je crois que c'est là une déviation qui est capitale. Alors on a voulu remplacer ça par la phénoménologie. Il y avait un vide. Alors regardez la manière dont Husserl parle de la substance. Et la manière dont j'expérimente que je suis. Vous voyez ? Et je crois que ça a été tout l'effort du Saint-Père dans son livre Personne et Acte. Et c'est pas parfait, parce qu'il y a toute l'analyse de la métaphysique, de la philosophie première, sur la substance et l'acte qui n'est pas fait. Il a voulu dépasser Husserl dans un réalisme plus parfait, personne et acte, mais il ne pouvait pas le dépasser pleinement parce que le jugement d'existence n'était pas assez affirmé. Ensuite, je découvre la structure de ma personne. Et la structure de ma personne, c'est ma soif de vérité. La vérité n'est pas l'être, mais la vérité est la structure de l'être spirituel. L'être spirituel est structuré par la vérité. Et c'est pour ça que Heidegger redécouvre l'importance de la vérité. Et il veut redécouvrir l'importance de la vérité au niveau de l'être. Le dévoilement de l'être. Aletheia. La rue. Aletheia. C'est découvrir la structure de la personne. Et c'est vrai, toute ma personne est structurée par cette recherche de la vérité. Et c'est pour ça que je vous disais que le philosophe, la philosophie première, au terme de toute son analyse, quand elle découvre le « je suis » et qu'elle a conscience de ce « je suis », comme étant l'ultime vérité qu'elle saisit en philosophie première, se pose la question, est-ce que cette ultime vérité est-elle la vérité tout court ? Et je vois tout de suite que je ne peux pas le dire, puisque mon voisin dit la même chose que moi. Si je l'écoute, si j'ai un voisin qui a fait la même enquête que moi, alors l'avantage, c'est que nous avons tous fait la même enquête. Donc nous avons pas mal de voisins métaphysiques, ce qui est rare, hein, ce qui est rare d'avoir beaucoup de voisins métaphysiques qui disent « je suis » avec la même tonalité. Or, si nous sommes plusieurs à dire je suis, il n'y a aucune raison de dire que moi je suis supérieur à celui de mon voisin. Il est peut-être plus pénétrant, mais c'est le même. Et je le respecte comme je respecte le mien. Le multiple ne peut pas être ce qu'il y a de dernier, puisque l'être est un. Si le multiple ne va pas être ce dernier, il faut donc se poser la question. Alors, se poser la question, existe-t-il un être, une personne plus parfaite que la mienne, fait partie de l'authenticité de ma structure personnelle? Et ça, je crois que c'est très important de pouvoir dire ça à quelqu'un qui se dit athée. Et s'il veut bien l'écouter, ça l'ébranle. S'il est honnête dans sa recherche de la vérité. Je cherche la vérité, l'être est un. Ma plus grande expérience de l'être, c'est je suis. Et j'écoute mon voisin qui dit je suis aussi. Alors, nous sommes deux. Peut-être 100, ça peut être des millions à dire je suis. Mais c'est le cri de l'enfant au désert, le cri métaphysique de l'enfant au désert. Écoutez tous les je suis. Et donc, je ne peux pas affirmer que c'est en moi que l'être est premier. Existe-t-il un être premier? Et comment le dévoiler? Vous voyez, le besoin du dévoilement de la vérité. C'est une nécessité et ça fait partie de la structure de la personne. Vous voyez, la personne humaine, par son esprit, par sa recherche de la vérité, a une lucidité. personne s'établit avant la conclusion. Alors là, il y a aussi quelque chose de juste que Heidegger souligne quand il dit que l'interrogation est la chose la plus grande en philosophie première. Vous voyez, c'est-à-dire que mon intelligence en philosophie première ne conclut pas. Je pourrais peut-être ensuite dire qu'il y a une possibilité de conclure dans une nouvelle recherche. Oui, ce que Heidegger n'a pas fait. Il est resté comme ça. Ce qu'il y a de plus grand pour Heidegger, c'est d'attendre que Dieu se révèle. Il le dit du reste. Parce que quand à Louvain-Valin, ça voulait dire que Heidegger est un athée qui nie l'existence de Dieu, Heidegger a dit on ne m'a pas compris. Il a refusé absolument ce terme de dire qu'il était un athée. Il a dit je suis en attente de Dieu. Alors pour lui, et on comprend ses logiques avec son système, pour lui, mon intelligence ne peut atteindre Dieu que si Dieu se révèle à moi. Oui, c'est là le point de contact entre Heidegger et Hegel. Mon intelligence par elle-même ne peut pas découvrir l'existence de Dieu. Parce qu'il a confondu être et sa modalité particulière d'exister. Dans le Dasein. Il a confondu le pose et le diesti, si vous voulez, pour préciser davantage. Donc, il y a cette grande recherche de l'intelligence qui recherche la vérité à l'étéia, qui recherche la lumière. On est fait pour la lumière. On est fait pour la vérité. Et ma personne dépend de cette recherche de la vérité. Et ça, il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Je crois au vrai problème de la personne. On affadit la personne. On dit, c'est l'amour qui est la structure de la personne. Non, c'est pas vrai. L'amour permet le dépassement. Le dépassement ne structure jamais. Être structuré par le dépassement, c'est partir dans l'abîme. Je sais que c'est très tentant. C'est très tentant. C'est la grande tentation du néoplatonisme. C'est la grande tentation de la mystique métaphysique. Or, il n'y a pas de mystique métaphysique. La mystique présuppose que Dieu se révèle comme amour. Mais jamais, au point de vue philosophie première, l'être se dévoile à moi comme amour. Il se dévoile comme esprit. Et l'esprit se dévoile comme capable d'aimer. Mais ce n'est pas l'amour. Alors voyez, là, il y a aussi quelque chose d'extrêmement important à saisir. Je précise aussi, quand je dis que l'aletheia, la recherche de la vérité, et la structure de la personne, je peux tout de suite comprendre l'erreur de Descartes de dire que l'idée d'infini structure ma personne. C'est un peu l'erreur de Geffray, du père Geffray. L'infini ne structure rien. structure, là, le fait d'être déstructuré. Ça, c'est la tentation de dire quelqu'un est structuré s'il est déstructuré. Parce qu'il est ouvert à tout, ouvert à tout. L'abîme. L'abîme ne structure rien, il donne le vertige. Et le vertige, c'est pas la structure, vous voyez. Vous comprenez pourquoi l'angoisse joue ce rôle, c'est important. Si l'infini structure, il faut être angoissé pour être dans la métaphysique. C'est indispensable. Si je ne suis pas angoissé, je ne comprends rien à la métaphysique. Je dis non, c'est faux ça. C'est un problème purement imaginatif. Et l'infini est imaginatif. C'est pour ça que le mathématicien caresse l'infini avec tant d'amour. Parce que le métaphysicien, c'est là où le métaphysicien a quelque chose à dire. J'allais presque dire, quoi. Vous comprenez, ce serait que les mathématiques essaient de structurer l'infini. C'est pour ça qu'elles sont dans le possible. Mais le possible ne structure pas. C'est pour ça qu'on peut toujours aller plus loin. On cherche indéfiniment. Alors c'est très important de comprendre que l'infini ne structure pas la personne. Et comprenez qu'en disant ça, vous tournez le dos à Descartes. Et vous tournez le dos à tous ceux qui ont suivi Descartes. Et vous devez comprendre que ce n'est pas ça qui structure, c'est la recherche de la vérité. Et tout autre chose. L'intelligence est faite pour ce qui est en tant qu'il est. Vous voyez, pour mieux comprendre encore, à la place de prendre l'axiome de saint Thomas, primo cadit in intellectus ens, on devrait dire primo cadit in intellectus infinitum. Et c'est vrai à partir de Don Scott. Ensuite, je vois que si mon intelligence, mon esprit est fait pour rechercher la vérité, il y a en moi un appétit radical, illimité d'amour. Il y a une soif d'amour et donc de dépassement. Structure, découvrir ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus aimable, ce qu'il y a de meilleur. Mais je découvre dans la personne de l'autre quelque chose qui m'attire. Vous voyez comme c'est curieux ça. La structure de l'intelligence structure. Mon appétit spirituel m'oblige de me dépasser et de laisser passer devant moi mon voisin. Vous savez comprendre que si ma recherche de la vérité est très puissante, et si je ne vois que cette recherche de la vérité, sans voir cet appétit spirituel, je risque toujours de m'enfermer dans un égocentrisme absolu. Spinoza. Un égocentrisme absolu. Rien n'est au-dessus de la substance. Rien n'est au-dessus de mon je suis. Ça revient au même. Alors on tombe dans une sorte de panthéisme, c'est-à-dire, au fond, je suis Dieu. Spinoza, la puissance de Spinoza, à ce point de vue-là, il lui manque l'amour. Toute cette recherche éperdue de Lévinas, l'autre, psychologie par la similitude. Et je connais l'autre de cette manière, ce qui est suffisant pour l'aimer. Et d'exercer sur moi une attraction prodigieuse. L'autre exerce sur moi une attraction prodigieuse. Et l'autre semblable à moi. Et c'est important de comprendre que l'amour est premièrement par la similitude. Et secondairement par la complémentarité. Alors là, il y aurait tout un tas de problèmes extrêmement importants à bien saisir cela. Ce n'est pas la complémentarité qui est première dans l'amour, c'est la similitude, au plan philosophie première. Il faut aimer l'autre comme mon bien. Alors, cette grande expérience de l'amour d'amitié, qui revient ici, non pas du tout pour structurer ma personne, mais pour comprendre que la personne humaine n'existe que si elle se dépasse. Le grand problème de la finalité. Où se situe la finalité par rapport à la personne? La finalité se situe par rapport à la personne pour ce dépassement. Si j'étais l'unique, je n'aurais qu'à m'aimer. Puisque je serais l'unique. Et puisque je ne suis pas l'unique, et qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui dit je suis, et il y a quelqu'un qui recherche la vérité, et il y a quelqu'un qui est capable aussi de m'aimer, alors c'est toujours extraordinaire. J'aime l'autre parce qu'il est bon. Et donc il est finalisé. Il est finalisé en m'aimant. Et je l'aime, non pas parce qu'il m'aime, je l'aime parce qu'il a en lui une bonté capable de m'attirer. Mais cette bonté capable de m'attirer, je ne peux la saisir que parce qu'il m'aime. Condition sine qua non. Et pas ce qui spécifie mon amour. Vous voyez, c'est tout le temps, et c'est ça qui est très important ici, de bien comprendre quand j'étudie le je suis comme personne, de saisir les conditions sine qua non pour ce qu'est ma personne et ce qui la détermine, ce qui la structure. La condition sine qua non n'est pas un principe. La condition sine qua non, ça vient du fondement. Toujours toute condition sine qua non vient de la causalité matérielle. Il y a de la possibilité de l'essendi. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'acte essendi? Celui qui est capable de tenir, celui qui c'est la capacité ultime, c'est ça la condition sine qua non. Et c'est important de toujours la préciser quand on recherche le comment. On ne la recherche pas du tout, la condition sine qua non, quand on recherche les principes. Mais dès que je suis dans le pause, les conditions sine qua non jouent un rôle très très important. C'est ce qu'on voit en psychologie. S'il n'y a pas cette condition, on n'arriverait jamais. Mais ce n'est pas ce qui spécifie. Et le psychologisme, c'est de confondre la condition sine qua non et le principe. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de finalité et je me replie sur moi-même. Donc, troisième dimension de la personne. Première, l'autonomie, la conscience du je suis. Seconde, la structure. Troisièmement, le dépassement. Et le dépassement dans l'amour d'amitié. Et cet amour d'amitié reste ouvert. Parce que la personne humaine ne peut pas me satisfaire complètement. Au plan philosophie première, je peux le dire. Mais c'est quand même lui qui est mon bien et qui d'une certaine manière me finalise. Quatrième. troisième dimension. Alors ici, il faut bien comprendre. Jusque-là, je saisis les trois absolus de ma personne humaine. C'est vraiment les trois absolus. La quatrième dimension me fait comprendre que je deviens une personne. Et je peux, dans l'ordre de ma persona ou de ma personnalité au plan métaphysique, philosophie première, je peux tout le temps me perfectionner. Pas dans mon être, d'une certaine manière, mais aussi dans mon être. Je peux tout le temps perfectionner. Je peux jamais dire maintenant c'est fini. Je pourrais le dire qu'en dernier soupir je passe d'un monde à l'autre et ce conditionnement terrestre est terminé. Alléluia. Où est-ce que je le saisis? Je le saisis dans mon intelligence pratique. Vous voyez? Je saisis l'intelligence séparée, pour reprendre l'expression d'Aristote, la soif de vérité. Mon intelligence affective, l'amour d'amitié. Et puis mon intelligence pratique. Et l'art. Je vais avoir là 4 et 5 dimensions de ma personne, mais qui sont dans le devenir. Alors ce devenir qui est très important, cette petite sagesse pratique, comme disaient les anciens, la prudence. La prudence que j'ai acquis avec beaucoup de difficultés. Et que je ne possède jamais. Je ne peux jamais dire que je suis assez prudent. Celui qui dit qu'il est parfaitement prudent, il n'a pas compris la prudence. Parce qu'il n'a pas compris que dans le devenir, il n'y a pas d'absolu. Et la prudence, elle est dans le devenir. Elle est mon devenir le plus, j'allais dire, vous voyez, c'est là où je peux dire mon dominium sur moi-même. Je peux gérer, comme diraient les psychologues. Je peux gérer le capital que j'ai et l'avoir. Vous voyez, hein, les psychologues ne voient pas les trois premières dimensions. Hein. Ils s'arrêtent à ça, gérer mon avoir. Comme si c'était ça mon absolu, pas du tout. C'est limiter la personne humaine à la prudence. Alors on fait des petits bourgeois. Les psychologues font des petits bourgeois. N'oubliez jamais ça. Parce qu'il n'y a plus aucun foule-camp. Non, c'est dangereux. Les trois qui dépassent le point de vue psychologique, c'est ces trois premières dimensions de la personne. Tandis que là, je retrouve le domaine de la prudence. C'est très très curieux quand on suit les meilleurs psychologues. Hein, je dis les meilleurs psychologues. Au fond, ce qu'ils essaient de saisir, l'équilibre humain, l'adaptation humaine, dans un langage psychologique, découvrir les sentiments du moi, comme dit Charlotier. Sécurité, valorisation, autonomie. Tout ça se noue autour de la prudence. Et c'est les trois dimensions de la prudence. Gérer mon capital de vie. La prudence, c'est ça. Je choisis mes moyens en vue de ma fin. Et la prudence permet d'avoir ce choix toujours lié à la finalité. C'est là, vous voyez, le puisque les psychologues ne parlent pas de finalité, comment peut-on gérer son bien sans la référence explicite à la finalité? Et la finalité, c'est l'amour d'amitié. La prudence est au service de l'amour d'amitié. La prudence ne gère pas l'amour d'amitié, puisque l'amour d'amitié est une fin. La prudence me permet de devenir de plus en plus amicabilis pour mon ami. Si tu étais plus prudent, tu serais plus aimable. Je peux dire ça. Vous voyez, l'amicabilis de ma personne, parce que ça fait partie de ma personne d'être amicabilis hein, quand même. Hein. Des gens qui sont en colère depuis le début du matin jusqu'au soir. Première chose, quand ils se réveillent, tu es un imbécile, mon vieux. C'est pas trop drôle à recevoir. Et puis toute la journée, vous dites ça. Au bout d'un certain temps, vous dites non, non, il n'y a pas moyen. Alors, habite au grenier, moi j'habite au sous-sol pour que je n'entende pas des cris. La prudence permet de gouverner mon irascible et de gouverner mon concupiscible. La prudence ne peut s'exercer que s'il y a la tempérance, que s'il y a la justice. Et la justice gouverne l'irascible. c'est la prudence. La prudence commande mes choix. Avec lucidité. Une personne humaine, c'est une personne qui est capable de choisir les moyens devant lesquels elle se trouve. Elle peut demander conseil, ça fait partie de la prudence. Elle peut demander conseil. Si elle sait sa fragilité et que le doute revient constamment, alors elle demande conseil. En disant, moi je suis incapable de décider, donc je demande conseil. C'est très bien. On a le droit de demander conseil. À plus avisé que soi. On demande conseil. Si on est chrétien, on prie. Et on demande à la Vierge Marie, qui est Virgo Prudentissima, donc à celle qui est la plus prudente de toutes les créatures, on lui demande conseil. Très bien. Ça, c'est pour le chrétien. Comprenons bien, c'est du point de vue métaphysique. Je maintiens la prudence. Ce qui me permet d'atteindre ma fin. Quels sont tous les moyens d'atteindre ma fin? Et la prudence implique le conseil, la prudence implique le choix, la prudence implique la décision dernière, l'imperium. Celui qui ne passe jamais à l'imperium est un imprudent. Il laisse passer tous les trains. Ce qu'il a peur des arrêtés. C'est comme celui qui est devant le stop, vous savez, il laisse passer toutes les voitures. Indéfiniment, indéfiniment, il y a toujours une extrémité, il faut passer, attention. Alors il est très imprudent parce que derrière lui, il y a une file derrière. Il commence à s'énerver. Il a fait stop. L'interview implique une décision où il y a toujours un risque. Je ne veux pas de risque. C'est faux. La vie humaine est une succession de risques. Et l'homme prudent le sait. Et l'homme prudent prend le risque en vue de la finalité. C'est ça que fait l'homme prudent. Et vous voyez, ça tient à la personne. Je crois qu'une personne qui n'arriverait jamais à se décider, il y a une très grande fragilité dans sa personne. C'est plus une personne humaine. Vous voyez, le doute ne fait pas partie de la personne humaine, de la qualité de la personne humaine. Ça va être farouche là-dessus. Parce que aujourd'hui, on dit l'homme prudent, c'est celui qui ne prend jamais de décision. Ah non, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. L'homme prudent prend ses décisions à bon escient, au bon moment. Au bon moment. Mais il n'hésite pas de le faire. Donc la vertu de prudence fait partie de la personne humaine. Et par là, vous voyez, j'assume toute l'éthique. J'assume toutes les vertus. Je ne peux pas dire qu'une personne humaine est une personne humaine si elle n'est pas vertueuse. Je regrette. Un bandit n'est pas une personne humaine. Celui qui a froid fait disparaître quelqu'un de gênant parce qu'il peut dévoiler quelque chose. C'est plus une personne humaine. Et à ce moment-là, au fond, au sens rigoureux, objectivement, il mérite d'être mis en prison. À vie. Parce qu'il n'a pas respecté la personne humaine dans son absolu. Il faut bien saisir ce que c'est que la prudence. Hein. Et c'est très grand. Et celui qui ne veut pas et qui reste dans le doute, ou qui te supprime parce qu'il veut rester dans le doute, qu'il a trop peur. Vous savez, l'angoisse conduit à des imprudences terribles. Et l'imprudence la plus terrible, c'est d'assassiner son voisin. La prudence la plus terrible, c'est l'avortement. C'est le signe d'une communauté humaine qui n'a plus de prudence et qui vit dans la panique. Et vous savez très bien ce que c'est que le petit lapin ou le petit lièvre qui vit dans la panique la nuit, quand vous êtes avec des phares allumés. Il couvre attendre un certain temps, puis d'un coup, il se retourne, il tire dessus. C'est ça la panique. Ça supprime la personne humaine. Alors, il faut bien voir le à quel niveau se situe la manière d'assumer la prudence. N'identifions pas, comme les stoïciens, la personne et le choix. Morale. C'est l'erreur des stoïciens, ça. Parce que, alors, à ce moment-là, la morale remplace la métaphysique. Et c'est le danger d'aujourd'hui. C'est le très grand danger de notre humanité, de notre culture. Il n'y a plus de métaphysique. Donc il n'y a plus de recherche de la vérité. Et s'il n'y a plus de recherche de la vérité, la prudence risque de prendre le pas sur tout le reste. Et au bout d'un certain temps, la prudence fait que, quand il n'y a plus que la prudence et qu'il n'y a plus de finalité, c'est le signe du petit bourgeois. Alors, immédiatement, le contraire existe. Et le contraire, c'est celui qui décide pas de faire disparaître son voisin, qui n'a plus aucun respect de la justice, plus aucun respect du droit à la vie du voisin, et qui le supprime quand il devient quelqu'un de gênant. Parce qu'il sait des secrets sur nous. Il a des témoins de certaines choses. Il est le témoin. Alors on le supprime. Le témoin, c'est le martyr. C'est même vrai dans le domaine humain, oui. En fait, on supprime des témoins. D'avoir été témoin de certaines choses, c'est très très lourd à porter. C'est très très lourd à porter. Parce qu'on sait que ça cumule des haines là-dessus. Et des haines impardonnables. Et il faut réfléchir là-dessus, parce que la prudence aussi, vous voyez, le rôle de la prudence dans notre personne humaine, ça nous l'expérimentons. Mais c'est le pos éthique. L'exercice de la prudence, comment la prudence est quelque chose qui me permet de gérer tout mon avoir. Mais j'aime pas beaucoup gérer. Hein. Le terme gérer, je l'aime pas. Parce que c'est trop de la banque. C'est l'économie qui donne ça. On dirait être prudent, c'est tout simplement agir, s'engager, être responsable. C'est tout le domaine de la responsabilité. Mais la responsabilité naît avec l'amour d'amitié. Mais l'application première de la responsabilité, c'est la prudence. Et la responsabilité naît dans l'ordre de l'amour d'amitié. Donc, ceci, c'est la dimension de l'ordre du devenir, voyez. Et c'est très important de comprendre que c'est la dimension de l'ordre du devenir, parce que ça ne structure pas et ça ne finalise pas. La prudence, on s'en sert. On doit s'en servir tout le temps. Et la prudence à tous les niveaux. Mais on doit être prudent. On ne peut jamais abdiquer la prudence. On peut la dépasser à bon escient. Savoir qu'on la dépasse. Tu vois ? D'un homme d'État, alors là ce serait important à voir, un homme d'État, je crois, ne peut pas dépasser la prudence. Un homme religieux peut dépasser la prudence, mais sans la mépriser. Mais c'est y a un dépassement de la prudence dans tout gouvernement de l'Église. Le gouvernement du pape pour l'Église n'est pas prudent. Vous voyez dans quel sens je veux dire ? Il est au-delà de la prudence, mais impliquant la prudence. Donc quand je dis n'est pas prudent, c'est pas tout à fait juste. Il est éminemment prudent. Et s'il est prudent,